Bienvenue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Daniel Héréau, enfant d'Ovalie, incontestablement citoyen du monde, probablement.
Deuxième épisode, l'esprit du jeu. Bonsoir ou bonjour, Daniel Héréau.
Ami du jour, bonjour, ravi de vous retrouver.
Pour cette deuxième émission, donc, j'aimerais qu'on aborde la pratique du rugby. Peut-être l'esprit du jeu, la pratique du rugby. On a parlé hier avec vous du fait que votre père, qui était, avez-vous dit, un petit rugbyman, avait du mal à passer la balle ou le ballon. Et que la dimension de coopération, c'est pourtant une dimension fondamentale du rugby. Donc j'aimerais qu'on s'adresse à celles et à ceux qui pensent que, je sais pas, c'est un sport de brut et qui n'y connaissent rien, et que vous nous expliquiez, que vous nous battiez sans doute en brèche un certain nombre d'idées reçues, que vous nous parliez des valeurs, des règles, que vous donniez aux amateurs et aux amatrices que nous sommes, même si nous en connaissons quelques rudiments, que vous nous donniez quelques notions de ce jeu. D'abord, qu'est-ce qu'on sait du rugby, Daniel Héréau ? Est-ce qu'on sait où il est né, quand il est né, qui en a été l'inventeur ?
Alors, le plongeon dans l'univers rugby, c'est un plongeon qui, dont on ne sait pas bien quand même la première impulsion. Sans aucun doute, rugby, c'est le nom d'une ville d'Angleterre. Bon, tu vois, donc il a été baptisé dans le lieu où, semble-t-il, il serait né de façon officielle. Tu vois, c'est-à-dire de façon baptismale, quoi. Il a été quasiment baptisé dans la ville de rugby, dans le collège de rugby, petite ville au nord de l'Angleterre, voilà, où un grand collège de la up middle class anglaise, tu vois, où à la fin du 18e, au début du 19e, à l'intérieur duquel collège, il y a des pratiques diverses, culturelles, religieuses, physiques. L'activité qui va ressembler à ce qu'on appellera ensuite le jeu de rugby, puis à un sport codifié, quoi. Bon, c'est plutôt par là qu'il semble que ça a été baptisé. Mais alors de sûr, quand même, ça traîne.
Début 19e, quand
même. Début 19e, là. L'acte fondateur, il est de 1823. Tu vois, l'acte fondateur, celui qui me semble, comme toutes les légendes, mériter de la suspicion, pour ne pas dire même de l'irritation, parce que c'est anglais. Ils se sont appropriés le jeu, ces Anglais, honnêtement. Ils se sont appropriés ce jeu, tu vois, au 19e, au 20e et au 21e siècle, quand même, devenu un jeu assez considérable, malgré tout, tu vois, dans l'univers social sportif du monde. Quoi. Ils se le sont appropriés en disant « il est né chez nous ». Ils ont créé des lois, on dirait qu'il est né chez nous.
Ouais, il est quand même un acte fondateur.
Un acte fondateur.
Alors lequel ?
Alors voilà, l'acte fondateur, c'est grosso modo dans le collège de rugby, mais il y a quand même 10 000 élèves, hein, tu vois. Dans le collège de rugby, un grand pré qu'on appelle le Big Side, le grand pré, quoi, voilà. Là, il y a des élèves de toutes tranches d'âge qui pratiquent un jeu où on joue avec les pieds. Celui-là, il apparaît relativement simple, il faut pas être bien futé pour y pratiquer, quoi, tu vois. Voilà, tu vois à peu près la métaphore suspecte de ma part. Et puis voilà, on se passe la balle avec les pieds. Et puis il y en a un, il s'appelle William Webb Ellis. Et va-t'en voir que, aujourd'hui, ce citoyen-là, il a donné son nom à la Coupe du Monde de rugby. Elle s'appelle la Coupe William Webb Ellis, qui sera distribuée, nous l'espérons évidemment de tout cœur, tu vois, dans cet automne 2023, au capitaine du 15 de France, qui s'appelle Antoine Dupont. Enfin bon, la Coupe du Monde porte le nom du citoyen, anglais, probablement, on ne sait pas s'il n'est pas un peu irlandais quand même, mais qui, alors lui, sur le terrain, il a 12, 13 ans peut-être, tu vois, il court avec la balle, il va pour donner un coup de pied, et puis il s'aperçoit qu'avec les pieds, il n'est pas bon. Il aurait un pied beau, mais ça s'écrit pas comme il faut, tu vois. Il a un pied maladroit, il prend le ballon avec la main, et la légende raconte, il court avec la balle. À ce moment-là, il a quelques adversaires qui sont devant lui, de sa tranche d'âge, des Benjamins, des Minimes, des gosses qui ont 12, 13, 14 ans, et ils se disent, mais ça se fait pas de courir avec la balle, avec la main, c'est interdit par les règles de notre petit jeu entre nous, là, tu vois, on joue qu'avec les pieds, football, quoi, tu vois. À la sortie, il y en a trois ou quatre qui lui sautent sur l'orable. Et même un peu en le grondant, en disant, quand même, dans notre culture et dans notre histoire, le respect des règles, c'est quelque chose qui compte dans l'éducation d'un citoyen dans un collège anglais, quoi. Tu vois, voilà. Ça tombe un peu comme ça, avec une espèce d'autorité éducative, tu vois, voilà, anglo-saxonne, on dira. Et à la sortie, le petit William, il se fait quand même un peu tabasser. Et les collègues qui jouent avec William, ils disent, c'est pas bien quand même que William, il soit en souffrance, là, tu vois. On sent que William prend la ration pénible. Il est donc maltraité. Et les collègues, Ils viennent aider William dans la bagarre. Donc on a un tas de joueurs qui sont contre William, avec les collègues de William, et ça fait un grand tas. C'est pas une bagarre, mais ça se bouscule, ça se tire, ça s'essaye d'attraper la balle, quoi. Il naît le tas fusionnel solidaire. Tu vois ? Il y en a un qui est tout seul, il morfle, Il y en a un qui est tout seul, il est dans une situation de péril incontestable, tu vois. Il y en a un qui est tout seul, il est confronté à une dangerosité. Tu vois, cette dangerosité, elle est malgré tout un peu teintée d'éducation quand même. On n'a pas les grandes roublardises et des bagarres guerrières, tu vois. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. Et à partir de là, il naît dans la pensée pédagogique anglaise l'idée quand même que une pratique physique où on se mesure, où le corps joue, où le corps acte, où le corps s'active, tu vois, au sens propre du terme, avec la dimension collective, il n'y a pas. Il n'y a pas. Dans le système éducatif, il n'y a pas. Il y a des champs culturels où on transmet des savoirs, des petits groupes, mais de jeu, quelque chose de ludique, de récréatif, un peu d'infantile, mais en même temps qui pourrait être formateur sur le plan de l'aide, de l'entraide, du partage, du groupe, et en même temps du groupe un peu lié à la rudesse, il faut qu'on le trouve. On invente un jeu de toutes pièces, groupe à groupe, face à face, avec deux ou trois règles. La première règle, tu vois, qui va naître quasiment, hein, c'est qu'il sera intéressant qu'on se rentre dedans comme des avions de groupe à groupe, parce que quand même, c'est pas qu'on peut y régler des comptes, mais on peut y régler ses propres comptes. D'abord, je vais un peu me mesurer à mon propre courage, je vais sans doute me mesurer un peu à mon goût d'aide, à ma nature un peu solidaire, tu vois ça, avec l'adversaire. Bon, ça donne quand même une pratique, ça, bon, ça bourre beaucoup, hein, c'est irregardable. Tu vois, c'est un tas d'adolescents pubères régressifs, de fait. Mais derrière, la première règle, c'est on en parlera. Bizarrement, la première règle qui naît du jeu, c'est qu'on parlera de la bagarre.
C'est l'après-jeu.
Aujourd'hui, ça s'appellerait la troisième mi-temps. Ouais. C'est un mot un peu étrange, tu vois, parce qu'il est très festif. Quand tu dis troisième mi-temps, c'est un synonyme de festivité, de jovialité, de convivialité, même un peu de pinardage. En fait,
c'est le verre de l'amitié.
Alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est le verre de l'amitié. C'est plutôt l'amitié a besoin de verre pour pouvoir s'exprimer. Tu vois, on a joué, on a bagarré, ça a été dur, et même quelques comptes peut-être se sont réglés, tu vois. Et maintenant, il faut qu'on en parle. Parce que si on en reste là-dessus, le prochain match,
Il faut que ces partenaires de jeu restent des adversaires et ne deviennent pas des ennemis.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais l'idée, c'est que si on, pendant un moment, il y a ça, derrière, il faut qu'on parle. Derrière, il faut qu'on échange. Libérer les mots, mettre les mots sur les pratiques. On appellerait ça, je sais pas, les agapes chez les francs-maçons, tu vois, ou la convivialité chez les humains classiques. Et on invente derrière le rude, on invente le doux. L'idée du doux, l'idée de la parole, l'idée de la conversation. Tu vois, l'idée de l'échange qui passe par les mots, et on affriole un peu. C'est pas si facile. Affrioler un peu, c'est-à-dire que tu mets du convivial. Bon, grosso modo, je sais pas, tu bois des gourgeons, quoi. Ben, peu importe. Non, mais même chez les petits, il y a cette dimension-là. Alors, ils mangent un petit sandwich, mais ensemble. Et notamment avec celui qui était en face. Ce qui veut dire que, grosso modo, le poste, après, ça nous amène vers le partenaire adverse, de fait. Ou l'adversaire partenaire de vie, quand même, malgré tout, quoi. Tu vois, ça, c'est la règle morale, de fait. La pratique. La deuxième règle morale, il faut quand même qu'on aille vers le plus grand nombre possible. Comment on peut se mettre sur un groupe, sur un terrain, sur un pré, pour qu'en s'affrontant, tout le monde ait quand même quelque chose à y faire, tout en étant toujours avec les autres. Tu vois, c'est cette idée-là. Libre ensemble. Garde ta personnalité, mais viens avec nous. Joue dans le groupe avec nous, garde ce que tu es, ta force, ta gaillardise, ta sévérité, ta générosité, ton sens du pas. Mais viens avec nous. Tu vois ça? Au début, ils sont 300 contre 50, 80 contre 12. Au début, c'est des grands nombres, tu vois, qui se mesurent, et c'est pas le nombre précis qui fait l'égalité. On peut être 406e contre 50 terminales. Tu vois ça? Bon, c'est ce genre de truc. Mais très vite, quand même, très vite, ça va durer un siècle, hein, et ça va s'arrêter à 15. Mais c'est pas venu par hasard, hein. On a mis 100 ans à trouver ce chiffre 15. Le 15, il nous offre la possibilité. Alors là, ça rentrerait un peu dans des champs même sur lesquels, conceptuellement, je suis pas toujours des plus clairs, quoi. C'est la force des nombres et le potentiel relationnel que portent les nombres entre eux. Tu vois? Et ben, le jeu de rubis, il va aller vers le 15 avec au moins deux grandes entités. L'entité du 8, qui seront plutôt ceux qui vont bourrer, ceux qui vont affronter, ceux qui seront devant. Peu importe les métaphores, ils seront fantassins pour ceux qui ont un goût militaire. Tu vois, ils seront tambour battant pour ceux qui aiment que la fanfare, tu vois. Ou ils seront petits rudoyants s'ils aiment que la rue, quoi, tu vois. Ceux-là, ils vont devant. Et après, t'as ceux qui ont un peu plus de goût quand même. Le terrain est assez large de contourner. Ceux-là, ils sont en général, ils sont 7. Grosso modo, bon, on va aller vers le chiffre 15. Et ce chiffre 15, il signifie un certain nombre de symboliques, je dirais, mais en même temps, il signifie surtout le plus haut possible pour que chacun ait la capacité, entre guillemets, hein, tu vois, le potentiel d'être branché sur tous, dans tous les secteurs de la vie de chacun. Branché sur tout, ça veut dire que lui, il est technicien, tu vois, elle est philosophe et poète, toi, tu es flamboyante de tous les attributs. À la sortie, dans le jeu, il faut que tu le gardes, ça. Mais en même temps, il faut que tu sois branché sur moi, sur ma différence. Il faut que, dans le temps du jeu, que tu puisses à la fois me comprendre, m'entendre, me lire, me respecter, dans le temps du jeu.
Mais donc, ça veut dire que chacun a un rôle très particulier à jouer, oui. Donc une morphologie très particulière, oui. Des positions très particulières, oui. Parmi les 15. Ça veut dire que vous pensez que c'est un sport d'ouverture, un sport d'intégration presque,
oui, alors,
d'inclusion.
On peut dire ça. On peut dire qu'à la sortie, il ouvre toutes les portes aux différences. Et même, il va faire de cette originalité-là, enfin, de ce point moral-là, que la différence enrichit un groupe, de fait. Et que la normalisation l'abîme. Quand tout le monde est pareil, c'est le début d'une galère. C'est le début d'une catastrophe morale et humaine, relationnelle. Tu vois? Mais on invite à satiété. On invite à satiété. Viens avec nous.
Comment vous expliquez, Daniel Herrero, que la néophyte que je suis nécessairement se fait l'avocat du diable, hein, sinon c'est pas drôle. Mais comment expliquez-vous que ce ne soit pas ce qu'on voit quand on ne connaît rien aux règles? Ce qu'on voit, c'est plutôt un combat, plutôt violent, avec des brutes ou des bourrins qui s'affrontent sur un terrain et qui font des mêlées, qui sont des tas, élitistes qui plus est, puisque c'est né dans la up middle class, viriliste, enfin voilà, tous ces attributs-là.
Élitiste, ça c'est une conclusion tardive, et phallocrate, misogyne et machiste, c'est un peu une conclusion tardive. Bien que, celle-là, elle est assez rapidement quand même dans l'âme du jeu de rubis, quoi, en l'occurrence. Mais l'idée, c'est que si tu vois le tas fusionnel, tu vois juste. Si tu vois le tas fusionnel rude, tu vois juste. Si tu t'interroges pourquoi dans le tas fusionnel rude, il s'y passe des choses intelligentes pour les humains, tu commences à y voir très juste. Mais t'es pas obligé de le voir. Tu peux avoir la sensation quand même que ce que tu vois, c'est ragoûtant, de fait. Tu vois, c'est même générateur d'irritation, d'inhibition, ou quelquefois d'effroi. Bon. De fait, l'idée, c'est le champ du solidaire, il n'est jamais plus actif que dans la fusion. Voilà. Tu vois, dès qu'on prend de la distance, il y a des choses entre. Dès qu'on est dans la fusion, il y a peu de choses entre. Entre, il y a ton cœur, quoi, c'est tout. Hein. Tu vois, voilà. Dès qu'on se distancie, il y a des choses entre. Des technicités, des aptitudes, des écoutes, des compétences, de mots, tu vois, de lecture du monde. Et, le jeu, il part de là. Et à partir... Alors ça, c'est l'âme fondamentale du jeu. Mais très vite, il va arriver une ou deux règles supplémentaires qui vont être de deux ordres, quoi. La première règle, finalement, il faut qu'on soit face à face. Parce que la face à face oblige un type d'affrontement. Le tout mélangé, c'est un autre type d'affrontement. Le face à face, tu les vois tous, et les tiens, t'en vois aucun. Et on invente la deuxième règle considérable du jeu de rugby, qui est la règle dite de l'en avant. Sur un jeu de rugby, depuis deux siècles, les mecs, quand il a le ballon, ou le mec ou la nana, hein, quand il a le ballon, il court en avançant, il voit le monde qu'il y a devant, qui en général est assez pénible avec lui, qui va être très pénible, et tous ses partenaires sont derrière. Cette règle est stupide si tu la lis bien. Le mec, il court, il fait la passe derrière, mais il est con ou quoi? Tu vois, qu'est-ce qui se passe pour qu'en même temps, il donne la balle à quelqu'un qui ne voit pas? Et hein, qui plus est, c'est une balle qui est même pas ronde, mais ça, on y viendra plus tard. À la sortie, donc, tu vois, on aimante le face-à-face, parce que le face-à-face, il met quand même les blocs en opposition obligatoire. Les blocs en opposition. Il n'y a pas d'autre hypothèse, collègue. Là, pour aller poser le ballon à l'autre... Donc, il y a la règle de l'extrémité. C'est au bout, là-bas, qu'il y a les buts. Voilà, c'est au bout, là-bas. Et après, face à face. La règle de l'en avant. Avec un truc considérable dans la règle de l'en avant, c'est que celui qui a la balle, tu vois, il en a 15 devant, qui sont pas forcément bien éduqués, ou s'ils le sont, ils ne le savent pas. Ils peuvent avoir un fond d'irritation, ils ont un fond d'écume à la lèvre, ils ont souvent les yeux rouges, ils parlent pas, ils grognent, tu vois, ils dégagent quand même un certain nombre de paramètres indicateurs autour du danger. Ça va faire mal, mec. C'est possible, tu vois. L'hypothèse du danger est une imminence, tu vois. Tu vois ça? Et tous tes collègues, ils sont derrière. Putain, mais c'est bien con. Non, tous tes collègues, ils sont derrière. Et c'est le fond de l'âme du jeu. Je te l'explique. Quand t'as le ballon dans les mains, ne te retourne pas. On y est. La solidarité est de principe. La solidarité est la loi absolue. Ne te retourne pas. Avance. Ne crains rien. On y est tous. Dans quelconque situation de jeu, la solidarité est une obligation morale à la fois de notre charte et de notre cœur. Tu ne pourras venir jouer avec nous que si ça, tu y rentres dedans. Voilà. La solidarité est une obligation. Donc, on a mis tous les partenaires derrière pour que tu n'aies jamais le mécanisme le plus perturbateur pour la vie d'un humain qui est celui de la peur. Où que t'ailles, la peur abîmera ta pleine exploitation de ton talent. Où que t'ailles, la peur générera des régressions des irritations, des inhibitions, des flétrissements, des fuites, tu vois, des ladreries. Nous, tout le jeu, c'est éduque-toi à ne plus avoir peur de rien à partir du moment où tu sais que nous, derrière toi, on y est tous.
Donc le grand joueur, c'est celui qui y va?
Non. Le grand joueur, celui qui y va, c'est tout le monde. Ça nous intéresse relativement peu qu'il y a. Des fois, il y voit bien, des fois, il y voit moyen. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il puisse prendre l'initiative à un moment, quand il est porteur de la balle, qu'il puisse prendre l'initiative d'aller donner quelque chose à l'aventure humaine de notre groupe. Voilà. Avance, fais une passe, contourne, tu vois. Mais ne te fais aucun souci. Ne te fais aucun souci. Tu sais que nous y serons toujours avec toi. Ne te fais aucun souci. Le problème de l'inhibition liée à ton talent, non, ne t'en fais aucun. Celui qui est devant, c'est pas le plus grand. Parce qu'à tour de rôle, ils y seront. Celui qui est devant, c'est l'acte initiatique de la technique du jeu. À un moment, tu joues à un poste qui fait que tu es devant. Et quand tu es devant, c'est sans doute un peu que tu as un leader. Tu as, alors, le mot anglais, je l'aime pas, mais qui est celui de meneur, quoi. Quand tu es devant, tu es en proue. Si tu es devant et que tu y vas avec appétit, avec générosité, avec, tu vois, et flamboyance, avec énergie, tu impulses ceux qui sont derrière, mais que tu ne vois pas. Tu ne les vois jamais. Voilà. Et tu auras tous les droits sur le corps de l'autre, sauf d'avoir envie de le tuer. La protection du joueur sera toujours quelque chose qui va influencer le déroulement du jeu. Pendant longtemps, j'avais le droit de te sauter au cou. Tu vois, mais on s'est vite aperçu, à la fin du 19e, au début du 20e, que quand même, sauter au cou, c'était dangereux. Hop, on a interdit ça. Pendant longtemps, je pouvais t'attraper et te planter par terre. Tu vois, je suis tout bloqué. On s'est aperçu que ça a mis 20 ans. Donc, il y a deux lois qui ont toujours été sous-jacentes et puis qui se sont activées et qui ont fait le jeu de rugby. Il faut toujours protéger la vie de la balle, il faut jamais l'arrêter, la tuer, ça veut dire, toi, tu la gardes pour toi tout seul au sol et tu la couves au point qu'elle ne puisse plus jouer, quoi, qu'elle ne puisse plus vivre, qu'on ne peut plus s'en servir. Celle-là, elle a été constante jusqu'à aujourd'hui, quoi, et la règle de la protection de l'homme qui aujourd'hui est devenue de plus en plus forte. Voilà.
Oui, parce que vous nous avez donné quatre règles, mais il y en a 150, mais il y en a quatre qui servent, quoi.
Ouais, il y en a quatre.
Il y a quatre fondamentales.
Les quatre fondatrices. Les quatre qui portent l'âme, de fait. Tout le reste, ce sont des aménagements techniques, stratégiques,
logistiques. Ce qui fait que le jeu est quand même très compliqué.
Oui, mais si tu comprends ces quatre, tu lis le match.
Mais j'ai encore regardé.
Tu le lis à 70-80%. Qui que tu sois, ma mamie, tu vois, pouvait venir lire un match. Ma mamie, un jour, m'a dit, j'ai vu ton équipe, elle connaissait que la règle de peut-être de l'en avant, je suis même pas sûr, probable. Tu vois, la règle du tas, vous savez qu'on pouvait se mettre en tas, il fallait qu'on soit vaillant, ça, elle le savait, tu vois, grosso modo. Et ma mamie, un jour, elle me dit, j'ai vu ton équipe jouer, et elle me dit un truc que je trouve ça, elle me dit, ils ont mis le cœur au ventre. Mais ma mamie, cette formule-là, quoi, tu vois, elle a lu que quelque chose jouait entre le cœur et le ventre dans mon équipe. Tiens, je l'ai perçu comme le à la fois le plus sublime complément, mais je n'ai même pas osé lui dire. Je voyais bien qu'est-ce que le voulait dire. Vaillant, tu vois, peut-être généreux. Tu vois.
Vous aviez quelle position, Daniel Herrero?
Alors moi, j'avais une position... Alors le jeu, effectivement, comme il a une âme numérique, de fait, et en même temps des âmes techniques, puisqu'on invite tout le monde, mais malgré tout, on leur a donné des orientations. On les invite tous, mais avec des orientations, ce qu'on appellera des postes. Le poste, il va définir une fonction. Le mec a le numéro 1 dans le dos, il a un poste qui définit un type de comportement. Tu vois, le 1, il est pilier gauche, donc il va jouer en mêlée, il va jouer dans des molles, il va jouer un peu en touche, il va jouer dans des zones de grand combat. Moi, je jouais 6 ou 7. En d'autres termes, j'étais ce qu'on appellerait une troisième ligne. Alors ça, c'est déjà encore un terme, tu vois, qui définit une organisation sur le terrain. T'es pas dans les premières lignes, au sens propre du terme, celle du combat. T'es dans la troisième ligne, mais la troisième ligne, elle est la liaison entre ceux du combat et ceux du contournement. Entre ceux qui vont affronter pour mettre frein à l'énergie de l'adversaire et peut-être même usure à l'adversaire, et ensuite autoriser d'autres à aller vers des espaces plus libres, plus larges, sans doute moins rudes dans le type de l'affrontement. Je jouais ce poste-là, moi. Mais à côté, il y a le 9 et le 10. Le 9 et le 10, eux, c'est des joueurs de la gestion stratégique. Tu vois, ceux qui orientent les grandes lignes du collectif, qu'on appelle l'équipe. Les troisièmes lignes, celui qui était mon poste, il était plutôt agent de liaison. J'aime pas trop le mot, mais le mot lien me plaît bien, quoi. Le mot lien, celui qui lie ou qui relie ou qui allie. Tu vois, tous ces mots-là, allier, quoi. Voilà, c'était un... Et quand même, maintenant, je sais aussi, sur le tard, que ce poste-là avait des obligations techniques, mais en même temps, je l'ai pas choisi. C'est le poste qui fait du lien entre tous.
Est-ce que il y a une façon française de jouer au rugby? On parle du French flair.
Oui, oui.
Ça a un
Alors,
sens.
C'est un mot anglais, quand même, French flair. Donc, à partir de là, nous aurons quelques réticences. Mais c'est quand même, comme ils savaient pas bien nous qualifier, les Anglais, ils sont toujours très embêtés pour savoir quelle est l'âme de France. Nous, pour eux, on voit à peu près, hein. Ils sont rigoureux, appliqués, méthodiques, hein. Ils sont pas de grande modestie, ils nous tirent les oreilles quand c'est pas eux qui l'ont inventé. Enfin, tu vois, on aurait quelques glorifications de leur profil psychologique et humain,
tu vois. Comme nous.
Comme, voilà. Mais en même temps, évidemment, il y a une espièglerie, pour ne pas dire une facétie de notre part, qui est un peu suspecte. Et là, ça nous amènerait peut-être à l'esprit du rugby de France. Il faut faire un peu attention, parce que si tu penses que nous, nous avons le cœur, que nous, gens de France, nous avons une pratique rugbystique sportive qui est faite sur la noblesse relationnelle, sur le goût du cœur, sur la générosité, donc, tu vois.
Ça veut dire que les autres l'ont pas et ça va pas.
Ça veut dire que les autres parlent pas. Et là, c'est une bouffonnerie suspecte. Et là, tu
bon,
fais quand même partie de la catégorie.
C'est pas ça. Ouais, le French flair, c'est pas ça. Non, alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, ce qui semblerait être un trait que des Anglais sur le tard, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, quasiment, vont un jour labelliser sur l'équipe de France avait fait un grand match, et je pense que c'était un analyste, un esprit critique, mais quand même averti des choses, peut-être même un initié. Il aurait dit, les Français, ils ont quelque chose d'étrange, le French flair. Tu vois, avoir un grand blair, quoi, comme dirait Cyrano. Il semblerait quand même que dans la culture de la France, l'ordre soit quelque chose de respectable, mais le désordre soit la loi. Une manière d'être à la fois un peu créatrice, un peu joviale, un peu infantile, un peu attaqué par un fond de narcissisme, pas totalement régressif, on n'est pas des Italiens quand même, mais pas loin, tu vois. Enfin, il y a quelque chose autour du désordre. Et le désordre, sur une pratique sportive, il va générer un type de créativité étrange. Parce que dans le désordre, tu improvises beaucoup. Tu vois, dans le désordre, tu es adaptatif. Tu as une lecture instantanée dans le désordre. Dans l'ordre, tu fais ce que tu as appris. Dans l'ordre, tu répètes. Dans l'ordre, tu organises. Dans l'ordre, tu mets de la méthode. Les Anglais jouent avec méthode. Les Français jouent avec bordel. Grosso modo, ça va définir plutôt un esprit vaillant, très vite attissé sur un orgueil qu'il ne faut pas trop chercher. On sait que les Français sont toujours meilleurs quand ils ont été vexés. Tu vois ? C'est ce qu'on appelle les matchs à réaction. Tu vois, t'as perdu contre les All Blacks, ils t'ont tabassé comme un poulpe. Mais on est un peu leur bête noire. On les a battus 3 fois, de fait, dans des très grands matchs. Mais ils nous ont battus 60 fois, eux. Oui. C'est un rapport assez pénible.
Mais est-ce qu'on est bon, nous, les Français, globalement?
Alors, je suis pas sûr qu'on soit.
Bordel,
je suis pas sûr qu'on soit très bon. Je pense qu'on est beau. Tu vois?
C'est-à-dire, je pense que c'est. Ça suffit pas pour gagner, ça, si.
Voilà. D'aucuns pensent, et c'est le cas d'aujourd'hui, l'équipe de France d'aujourd'hui, elle est belle et elle gagne. Ah! Il s'est passé quelque chose. Longtemps, on a été beau de temps en temps. Longtemps, on a été con très souvent. Dans les matchs d'orgueil, dans les matchs de vaillance, dans les matchs où tu vois où c'est la vieille culture de la rébellion.
La revanche ça. Aussi.
Oui, revanche, le revanchard. En général, c'est pas très subtil intellectuellement et sur le plan moral, c'est plutôt moyen. Mais quand même, ça peut être performant. Les Français ont été assez souvent là-dessus. Ils ont été quelques fois, à travers l'histoire. Par exemple, les Coupes du Monde de rugby, donc il y en a eu une dizaine. Et bien, les Français, dans ces 10 Coupes du Monde, ils ont fait chaque fois un bon match. Ils en ont fait qu'un. Un par Coupe du Monde. Un seul. Magnifique.
Il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on dise dans ce qui s'est passé, puisque vous dites c'est passé quelque chose. Il s'est passé beaucoup de choses dans les 20-30 dernières années. En particulier, quelque chose qui vous plaît pas beaucoup, Daniel Herrero. Puisqu'on dit que le jeu n'est plus ce qu'il était depuis 1995. On dit que 1995, ça a tout changé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
En 1995, il y a quelque chose qui craque. Et ce qui craque, c'est que le jeu de rugby inventé, donc, il y a 2 siècles, en 1800, quoi, 1850, jusqu'en 1995, 1 siècle et demi, quoi. Tu vois, ce jeu de rugby, il est catalogué comme un jeu. Il est bon pour la jeunesse, il est bon pour l'éducation des hommes, et il est bon pour faire grandir l'humain quand il vit avec d'autres dans le sens de sa socialisation, de l'affirmation de sa propre nature. Grosso modo, il est bon pour un corps humain de vivre avec des autres et de s'éduquer, à la rudesse du monde quand on est ensemble. Ouah, il est bon pour ça. À partir de là, les Anglais qui l'inventent, qui sont maçons, et qui sont d'une pensée humaniste, les Anglais qui l'inventent, la pédagogie anglaise, qui vont faire de ce jeu un instrument éducatif, il va rentrer dans les écoles au milieu du 19e, il va rentrer à Oxford, il va rentrer à Cambridge, il va rentrer dans les grands collèges, à Eton, chez les Aristos, il rentre avec une forme de grande respectabilité, avec une idée quand même que, il est porteur de quelque chose d'assez essentiel qui est sur le plan éducatif. Jamais le jeu ne sera confondu avec le travail. Le jeu permet à l'enfance de grandir, le jeu permet à l'enfance de vivre le ludique, c'est-à-dire le gratuit, quoi. Il y a rien de grave, mec. Construis-toi dans le, j'ose pas dire radicalement dans le plaisir, mais construis-toi dans les choses qui n'ont pas de fondement décisif sur le destin du monde, quoi. Et en 95, ce jeu-là, interdiction absolue qu'un seul centime circule dans les grands clubs français qui sont toujours un peu des trafiquants, tu vois, dans les grands clubs irlandais qui sont un peu déjà des celtes par rapport aux anglo-saxons qui eux sont plus raides. À la sortie, en 95, on s'aperçoit quand même que le monde a évolué, que la médiatisation, que la société, de fait, se préoccupe tout autant du spectacle que produit le jeu que de son âme éducative. Et on en fait un travail. On consacre le jeu comme un métier, comme un travail, pour l'élite, évidemment, quoi. On forme des gens pour ça. L'élite pourra gagner sa vie en jouant. Elle devient professionnelle. Les meilleurs vont faire que ça. Ils vont s'entraîner beaucoup. Ils vont jouer beaucoup. Ils seront beaucoup télévisés. L'économie générale de la société commence à s'intéresser à eux. Un, l'image qu'ils portent, l'âme qu'ils portent, la morale qu'ils semblent quand même porter, mais de la rentabilité. En même temps, ils seront un peu aussi des représentants de la nation ou d'une ville. Ils vont devenir des professionnels. Le monde devient de travail, l'argent rentre. À partir de ce moment-là, tout ne devient pas pourri, mais on va voir arriver quelque chose qui va nous abîmer moralement et qu'on essaye de solutionner et qu'on n'a pas encore gagné, qui est celui qui gagne sa vie en pratiquant cette activité-là, il va vers celui qui le paye. Celui qui le paye, c'est ou un club, ou une nation, ou une région. On l'achète et on le vend. Il joue par contrat. Et celui qui le paye, le joueur, lui, ira défendre son maillot. Grosso modo, le maillot de celui qui le paye. On dira que c'est un mercenaire, quoi. Il va défendre des couleurs qui ne sont pas les siennes, souvent, quoi. Il est, tu vois, aujourd'hui, un joueur de rugby de haut niveau joue à peu près dans une carrière de 10 à 12 ans. Il joue dans 4 ou 5 clubs. Il va dans des différents types d'endroits, nationaux ou internationaux. Tu vois ça? Donc, on va voir arriver quelque chose qui est étrange. C'est qu'on ne jouait plus dans le lieu, là où j'ai grandi, dans mon école, avec ma ville. Maintenant, on vient des mercenaires qui vont jouer pour défendre. Et avec une seule idée, c'est pas très très beau d'aller jouer pour gagner la vie, mais ma foi, pourquoi pas, ça peut aussi être respectable. Et avec surtout une deuxième idée, c'est que toi, mercenaire, tu vas être maintenant dans l'obligation d'aimer les gens où tu vas à travers ce jeu.
Avec des corps qui se ressemblent de plus en plus, qui travaillent à être de plus en plus forts, avec une augmentation des dangers, parce que les plaquages sont de plus en plus violents. L'année 2018 a été particulièrement noire hein, pour le rugby français, puisqu'il y a eu 4 joueurs de moins de 23 ans qui ont trouvé la mort sur un terrain. Vous parliez de violence tout à l'heure. Là, les commotions se multiplient. On a même développé des protocoles commotion pour les éviter. Absolument. Donc ça, c'est une des conséquences de la professionnalisation. On en sort comment ? On en sort par le rugby féminin, qui en gros est la pratique amateur, qui n'est pas encore professionnelle, qui est la pratique amateur d'autrefois ?
Oui, alors la question est bonne, elle est un peu offensante, mais dans le sens où tu constates quand même, Daniel, quand tu rentres sur un terrain de rugby aujourd'hui, que tu sois un Benjamin, un Minim ou un senior ou un international avec le coquelet sur la poitrine, il y a quand même un seuil de dangerosité qui est haut. L'année écoulée, là, 2021-2022, a montré 2 ou 3 désastres absolus. Aucun n'est lié à des violences délibérées, c'est-à-dire des joueurs qui se sont battus, mais qui sont liés à des chutes ou à des chocs ou alors la fameuse commotion cérébrale. Quand deux têtes se tapent, il y a quand même, contrairement à ce que tu penses, il y a un petit cas et c'est pas avec un peu d'eau qu'on te rafraîchit, et si 3 minutes après t'as l'impression que t'es guéri, non, il s'est passé quelque chose, et aujourd'hui on s'aperçoit que la multiplication des commotions provoque à terme des dangerosités qu'on ne peut plus ignorer. Donc effectivement, c'est emparé de cette idée-là, comme le jeu de rugby qui fait de sa beauté la rudesse en fait sa beauté, la dangerosité en fait sa richesse, la solidarité qui naît dans le cœur des hommes, tu vois, et dans la projection du plaisir que tu as à le voir, ça vient quand même que c'est des choses rudes qui se passent sur le terrain, et bien quand il y a du rude, il y a du danger, quand il y a du danger, il y a même des perspectives sur lesquelles il va falloir être très vigilant. Aujourd'hui, le rugby est très préoccupé de ça, honnêtement, hein. On voit bien, les règles ont augmenté dans les 3-4 dernières années, vraiment, on met l'attention. Tu ne peux plus toucher la tête d'un joueur, tu ne peux plus toucher le cou d'un joueur, tu ne peux plus même le regarder au-delà de la ligne des épaules, tu vois. Alors, la question, c'est, ce jeu-là restera un jeu rude, c'est son essence, ou il meurt tout court, ou il reste. Mais c'est pas parce que les jeunes dames se sont emparées de cette pratique-là comme une légitimité après quand même 50 années de bataille, hein. Le rugby féminin qui s'est installé dans le panorama sportif français dans les années 70, mais ça remonte à loin et pendant longtemps quand même il a eu très dur, même jusqu'à l'ignorance totale de la société. Aujourd'hui quand même, depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il est haut, il est beau, il est bon. Mais par contre, il est pas différent.
Merci Daniel Herrero. On se retrouve demain pour la 3e émission et on parlera de vous, vous comme joueur. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Fabien Gosset, réalisation Félicie Faugère, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.